Universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, Sportrama, ce sera avec Timothée Donangmaï. On commence par les actualités. Au Burkina Faso, le premier ministre intérimaire Isaac Zida a promis d'engager des réformes et de lutter contre la corruption à l'issue du premier conseil des ministres du gouvernement de transition. 3 semaines après avoir pris le pouvoir, l'armée burkinabé a obtenu des postes clés dans le gouvernement. Annoncé hier dimanche, le lieutenant-colonel Isaac Zida devenu chef de gouvernement la semaine dernière, devient aussi ministre de la Défense. L'armée prend également le contrôle de 4 autres ministères, l'intérieur, les sports, l'environnement et les mines. Le président intérimaire Michel Kafando, lui, se chargera des affaires étrangères. En Tunisie, les résultats officiels du premier tour de la présidentielle ne sont pas encore connus. Pourtant, une campagne pour le second tour semble déjà engagée entre le président sortant Moncef Marzouki et Beji Caïd Essebsi, dont le parti a remporté les législatives. Idriss Fall.
L'instance chargée des élections a jusqu'à mercredi pour donner les résultats du premier tour. Il y avait 27 candidats en lice, mais c'est comme un air de campagne pour le second tour qui s'est installé dans le pays. Le candidat donné favori, Bessi Saïd Essebsi, dont le parti Nida Tounes a remporté les législatives le mois dernier, a accusé son adversaire Moncef Marzouki d'être le candidat des islamistes d'Ennahda et des salafistes. De son côté, le président sortant appelle à un débat télévisé sur des programmes, des idées, des valeurs et non sur des insultes. Durant sa campagne, Marzouki, ancien militant des droits de l'homme, s'est présenté comme le rempart contre l'ancien régime représenté selon lui par Saïd Essebsi, 87 ans. Ce dernier a servi sous le premier président Habib Bourguiba et sous Zine El Abidine Ben Ali, renversé par une révolution en janvier 2011. Près de 5,3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier. Ce scrutin est qualifié de moment historique car presque tous les pays du printemps arabe ont basculé dans la répression comme en Égypte ou dans le chaos comme en Libye voisine.
En République démocratique du Congo, au moins 100 personnes ont été tuées à Beni, dans le nord Kivu, au cours de la semaine écoulée. L'information a été révélée aujourd'hui par des parlementaires de la région. Jacques Aristide.
La tuerie a été attribuée à des hommes appartenant au groupe rebelle ougandais des forces démocratiques alliées, ou ADF Nalu. L'attaque a été perpétrée jeudi à l'arme blanche et ciblée notamment des civils. Radio Okapi, la radio appuyée par l'ONU en RDC, rapporte que ce massacre vient s'ajouter à d'autres carnages commis ces derniers mois dans le nord Kivu, dans l'est du pays. Pour le vice-gouverneur de la province, Feller Lutaïtiaroua, le nombre de nouvelles victimes porte le bilan à plus de 200 personnes massacrées depuis octobre dans la même région par les ADF, une milice islamiste dirigée par Djamil Moukoulou, un chrétien converti à l'islam. Le vice-gouverneur Lutaïtiaroua a appelé les habitants à la vigilance. Quant à Albert Balié-Sima, un député de la majorité, il a déclaré que les forces armées congolaises, les FRDC, ne voulaient pas que les gens aillent plus loin dans la brousse où d'autres corps pourraient encore être découverts. Pour l'heure, le gouvernement congolais n'a pas fait de commentaires sur cette nouvelle tragédie.
Et le Parlement du Niger a un nouveau président, Amadou Salifou. Il a été élu ce lundi en remplacement d'Ama Amadou en fuite après sa mise en cause dans un trafic international de bébés.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Ici aux États-Unis, le secrétaire à la Défense Chuck Hagel a démissionné de son poste après près de 2 années dans le gouvernement fédéral. Lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche, le président Barack Obama a fait savoir que Hagel lui a confié le mois dernier qu'il était temps pour lui de mettre un terme à son service. Le New York Times, citant de hauts responsables du gouvernement, a rapporté que la démission est intervenue sous pression sur des controverses en matière de politique étrangère, y compris la guerre en cours contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. Les grandes puissances internationales et l'Iran se sont données jusqu'au 30 juin 2015 pour sceller un accord complet sur le programme nucléaire iranien. Une semaine de transactions à Vienne, en Autriche, n'a pas abouti aujourd'hui à l'accord espéré, mais le secrétaire d'État américain John Kerry soutient que les parties ont fait des progrès sur certains des points les plus difficiles. Et puis, une déclaration qui fait du buzz, les femmes ne sont pas égales aux hommes. C'est l'opinion du président turc Recep Tayyip Erdogan. Prenant la parole dans une conférence à Istanbul, il a déclaré que le rôle rôle de la femme selon l'islam, c'est d'être mère, un concept, dit-il, rejeté par les féministes. Vous écoutez VO Afrique dans un instant, Sportrama.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sportrama. Comme tous les lundis soirs dans notre émission, les résultats, les analyses, vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de Sportrama. Et nous attendons vos appels en direct pour participer à cette émission au 001-202-619-3140. 001-202-619-3140. Et comme à l'accoutumée, nous avons avec nous ce soir Jules Valentin Goué en ligne de Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir à tous.
Nous avons également Élisée Oumpatine au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Tim et bienvenue au Bénin.
Voilà, alors nous allons commencer par cette tragédie survenue hier à l'issue d'un match du championnat de la RDC. Nous avons depuis Lubumbashi une correspondance de Narval Mabila.
La phase allée de la Lina Foot qui a opposé l'équipe de Saint-Éloi à Lopopo à celle de Sangabalende les dimanches 23 novembre au stade Frédéric Ibassemaliba de la commune de la Kenya s'est terminée en catastrophe par une victoire de Sangabalende sous les scores d'un but à zéro, mais aussi accompagnée des jets de projectiles où s'en est suivie une bagarre qui a éclaté au stade jusqu'à atteindre les rues de la commune où la police a essayé de disperser les manifestants avec les grenades lacrymogènes mais aussi en tirant à balles réelles comme nous témoigne Malemba qui a vécu les événements.
Nous étions au stade, il y a eu match entre Lopopo et Sangabalende. Bon, le match était en faveur de Sangabalende, 1-0. Bon, juste 6 minutes avant la fin du match, les fanatiques de Lopopo n'ont pas supporté la défaite. Ils s'en prenaient d'abord, jeter des projectiles dans le stade. Bon, à un moment là, ils étaient un peu calmés. Quand ils ont compris que le match était presque à la fin, bon, ils avaient presque perdu, ils avaient déjà perdu. Ils ont commencé déjà à jeter des projectiles aux fanatiques de Sangabalende. C'est comme ça, les choses se sont mal passées. Les policiers ont intervenu pour un peu calmer la situation. C'est à partir de là que les choses se sont encore plus empirées. Puisque chaque fois que les fanatiques de l'Opo sortaient, maintenant, ça c'était déjà en dehors du stade. Ils s'attaquaient aux fanatiques de Sangabalende avec des projectiles. Les policiers ont intervenu avec des gaz lacrymogènes. À un moment, bon, c'était des balles réelles.
Alors que la bagarre s'empire autour du stade et dans les rues de la commune, la police est intervenue dans cette pagaille où l'on déplore des morts et des blessés.
4 blessés par balle. Et 2 morts par balle. Les blessés sont, à ce moment ici, sont à l'hôpital Afia Don Bosco.
Nous étions tous dispersés. Quand nous sommes rentrés dans le quartier, nous sommes allés au niveau de la commune où on avait déposé les 2 morts.
Les jeunes en colère ont transporté leurs 2 corps jusqu'à atteindre les bureaux de la commune qu'ils ont assiégés en érigeant des barricades sur l'avenue du marché. Pendant plus de 4 heures au soir de ce dimanche, c'est vers 22h, heure locale, que plusieurs jeeps de la police du district ville sont intervenus pour récupérer les 2 corps et les amener à la morgue militaire de la Roichy et ont organisé les patrouilles dans toute la commune qui était dans le noir jusqu'au petit matin du lundi. C'est sans aucune explication de la part des autorités de la ville qu'on pourrait faire le bilan. Selon les témoignages, il y aurait plus de 2 morts et plusieurs blessés, dont 4 blessés par balle qui ont été acheminés à l'hôpital Afia Don Bosco, Lubumbashi Narval Mabila pour la Voix de l'Amérique.
Voilà, merci Narval. Jules Valentin Goué, une nouvelle tragédie à l'issue d'un match de football.
Oui, une nouvelle tragédie qui coïncide avec l'ascension des clubs de la RDC sur le plan africain. Peut-être que c'est cette ascension qui a fait aussi lever les passions. Et quand on voit que, à côté de Mazembe, qui était un habitué des trônes en Afrique, le Vita s'est réhissé à ce niveau. Peut-être que cela concourt également à, je sais pas moi, à créer auprès d'un certain public des sentiments extrémistes.
On me signale que nous sommes rejoints par Salif Kabouré à Ouagadougou. Bonsoir Salif.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Ouagadougou.
Salif, un mot sur cette tragique fin de match à Lubumbashi.
Oui, c'est vraiment très regrettable qu'en Afrique, on continue donc à se chamailler pour des raisons, moi, de mon point de vue, inconnues. En tout cas, ça, ce n'est pas footballistique. Et je pense que dans tous les pays africains aujourd'hui, il va falloir que les acteurs sachent raison garder, parce que le football, il faut forcément un gagnant et un perdant. Et dans ce cas de figure-là, moi, je pense plutôt que le fair play, il doit prévaloir dans tous les stades africains. Et en ce qui concerne précisément le cas qui est arrivé donc à Lubumbashi ce week-end, je pense que la Fédération congolaise de football tirera les conséquences de ce qui est arrivé, que les coupables seront punis conformément à la loi. Pourquoi pas même interdire, je ne sais pas, l'équipe qui serait en tout cas reconnue coupable dans ce qui s'est passé, pourquoi pas ne pas l'interdire pour un certain temps, pourquoi pas la Confédération africaine de football ne prendrait pas des sanctions très sévères pour ce qui s'est passé, pour que cela ne se reproduise pas. Ça doit servir beaucoup d'exemples pour d'autres pays.
Merci Salif. Parlons à présent de la CAN 2015 qui se jouera en Guinée équatoriale et qui continue de dominer l'actualité sur le continent. Les 15 pays issus des éliminatoires plus le pays hôte sont à pied d'œuvre donc pour cette compétition prévue du 17 janvier au 8 février. Élisée, on patine l'ensemble des pays qualifiés donc pour cette édition, 15 pays plus le pays organisateur. Quel est le niveau de ces pays parmi lesquels des habitués de cette compétition?
Oui, forcément. En attendant, il faut aussi parler de la grande déception. C'est bien sûr le Nigeria qui ne va pas défendre sa coupe remportée il y a cela un an du côté de l'Afrique du Sud. Sinon, on retrouve les mêmes et surtout un clin d'œil à cette formation algérienne, même si il fallait attendre la dernière journée pour voir sa première défaite dans 16 éliminatoires. C'est-à-dire qu'on aura une très bonne Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du côté de la Guinée équatoriale et surtout le Ghana qui a dû se batailler très fort lors de la dernière journée pour se qualifier. N'oublions pas aussi le Cap-Vert qui a confirmé, le Cap-Vert était à sa toute première participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique, eh bien, qui a récidivé, puisque ce pays n'était pas très attendu dans un groupe où il y a la Zambie, mais force est de constater que cette sélection est arrivée en tête devant les Zambiens, sinon une qualification difficile pour la Côte d'Ivoire, qui a dû se contenter du point de nul et du partage des points 0-0 à domicile dans un match très décevant. Là, on va retrouver des grandes formations comme la Guinée. C'est vrai, la Guinée n'est plus une grande équipe, mais qui a dû se batailler très fort. N'oublions pas que cette sélection a disputé 3 de ses matchs à domicile à l'extérieur compte tenu de l'épidémie d'Ebola. Donc, il faut féliciter la troupe entraînée justement par le Français Michel Dessuyer.
Et nous avons en ligne notre auditeur Christian Dirabé du Tchad qui veut dire un mot concernant l'organisation. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Voilà, allez-y.
J'aimerais poser la question, j'ai deux questions concernant la Guinée. Comment la Guinée va préparer son entrée en jeu vu
la Guinée équatoriale, vous voulez dire?
Oui, la Guinée équatoriale. Vu qu'elle est arrivée grâce à la suspension du Maroc. Ma deuxième question, quelles seront ses forces pour affronter la compétition?
Jules Valentin Goué, la Guinée équatoriale repêchée du fait d'avoir accepté d'organiser la compétition, est-ce qu'elle a le temps d'être prête au plan sportif et au plan infrastructure pour accueillir cette compétition?
Oui, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a un cas de figure comme celui-là. En Europe, on a vu le Danemark remplacer au pied levé la Yougoslavie et gagner la coupe. Donc, ma foi, il faudrait savoir que la Guinée équatoriale a 2 mois pour se préparer et disons près de 2 mois pour se préparer et c'est une équipe qui avait une politique de disons que sportive bien définie et il n'y a pas de raison que cette équipe ne soit pas prête.
Voilà, alors Salif Kabouré, le plus important contingent de cette CAN 2015 viendra de l'Afrique de l'Ouest.
Oui, tout à fait. Comme d'habitude, si ce n'est pas trop dire, effectivement, plusieurs équipes venant donc d'Afrique de l'Est iront directement à Malabo ou à Bata pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football. En tous les cas, vous le savez, depuis quelques années maintenant, la Coupe, en tout cas, se balade un peu en Afrique de l'Est. Le cas le plus récent, c'est le Nigeria en 2013. Et on espère peut-être que la Coupe reviendra, pourquoi pas cette année-là aussi en Afrique de l'Ouest. Toujours est-il que les équipes ouest-africaines aussi ne sont pas tout à fait en forme comme les années précédentes. Et on évoquait le cas donc du Nigeria qui ne ramène pas à la Coupe d'Afrique. Du Burkina Faso, le champion qui s'est qualifié donc à une journée de la fin des éliminatoires. Bon, en tout cas, l'équipe pour l'instant ne tient que peut-être sur un seul joueur, il s'agit de Jonathan Pitrapa. L'équipe évolue aujourd'hui à l'image de Jonathan Pitrapa. C'est vrai, il y a des jeunes gens, autant bien d'hommes qui sont au sein de la formation burkinabè, mais est-ce que ces jeunes-là seront prêts, en tout cas, pour affronter la dure épreuve au mois de janvier prochain? C'est toute une question qu'on se pose ici au Burkina Faso. Vous avez aussi l'équipe ghanéenne qui s'est qualifiée, j'allais dire, un peu difficilement. L'équipe ghanéenne, donc, qui ne répond plus véritablement comme on la savait depuis plusieurs années. Il y a également que d'autres équipes comme la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée en grand défi, qui n'arrivait même pas à faire la grande différence sur ses propres installations. Bref, les équipes africaines, les équipes ouest-africaines se sont qualifiées, mais il faut reconnaître véritablement que ce sera difficile pour elles. S'il n'y a pas de changement d'ici là, moins de 2 mois, ce sera difficile donc de parfaire les automatismes et trouver les véritables hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour affronter des équipes comme le Cameroun et l'équipe camerounaise qui véritablement est montée en grande puissance.
On signale que nous avons au téléphone notre auditeur Koundé Msombo en direct du Mozambique. Bonsoir Koundé. Allô? Nous avons perdu Koundé Msombo qui nous appelait du Mozambique. Jules Valentin Goué, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et la RD Congo tenteront de maintenir le trophée en Afrique centrale.
Oui, bien sûr, c'est la participation la plus forte de l'Afrique centrale, parce que généralement, comme on le disait, c'est l'Afrique de l'Ouest qu'on retrouve, mais il faut dire qu'en termes de ratio, l'Afrique de l'Ouest, c'est presque la moitié des participants, et enfin des prétendants en Afrique. C'est une zone qui recouvre un très grand nombre de pays. Donc, généralement, en Afrique centrale, on se plaignait aussi du fait que les éliminatoires avaient un caractère un peu régional et tout le monde un peu se cassait les dents sur les Zaïre d'abord, à une époque un peu plus éloignée, puis sur le Cameroun. Mais cette fois-ci, on a 5 représentants, ça se joue en Afrique centrale. Il y a des équipes qui sont montées en puissance, comme le Gabon. Par exemple, il y a une équipe très épanouie actuellement et qui, ma foi, pour elle, c'est cette année ou rien du tout, comme le Congo, bien encadré par Claude Leroy, qui lui a inculqué une culture tactique adaptée. Et nous avons, bien sûr, la grande lessive au Cameroun qui a ramené l'équipe à un bon niveau, tandis que les clubs qui réussissent pour la RDC un peu partout en Afrique maintenant ont donné plus de confiance aux joueurs et ont fait découvrir également de grandes individualités. Donc je crois que l'Afrique centrale sur cette terre sera difficile à battre.
Elisa Gumpatine, toujours du point de vue du nombre de pays participants, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe ferment la marche vers ce trophée 2015 de la CAN.
Bien évidemment, deux équipes, il faut le dire, hein, puisque là maintenant, là, on attendait plus du côté de l'Afrique du Nord. Si le Maroc organisait cette compétition, eh bien, l'Afrique du Nord aurait tout au moins 3 représentants. L'Égypte qui continue pas de se voir depuis maintenant 3 CAN, si j'ai bonne mémoire. C'est-à-dire que les Égyptiens ont du mal à assumer cette transition, hein, la vieillesse et la jeunesse. Et aussi ce championnat qui peine maintenant, puisque compte tenu de la situation politique dans ce pays, eh bien, ces Égyptiens qui comptent largement les joueurs qui évoluent dans le championnat national, c'est-à-dire que ça se complique maintenant pour ce pays. Et comme toujours, hein, l'Afrique australe n'a pas toujours livré bon nombre d'équipes qualifiées pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud qu'on a plus vu il y a longtemps, même si cette équipe, ce pays a organisé dernièrement une Coupe d'Afrique des Nations un peu levée, puisque c'était la Libye qui devait organiser. Sinon, on a beaucoup vu maintenant la Zambie, et il y a longtemps qu'on n'a plus vu l'équipe mozambicaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'Afrique australe a 2 représentants, tant mieux. Maintenant, la compétition va se jouer certainement entre 3 régions, c'est-à-dire l'Afrique occidentale, qui sera très attendue, l'Afrique centrale qui organise cette compétition, et surtout le Maghreb, sans oublier la grande sélection algérienne qui est en train de battre record sur record. Donc c'est une équipe qui faudra beaucoup attendre à cette édition de cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Guinée équatoriale.
Merci Élisée. Nous allons vous retrouver dans Sporama après cette pause. Programme sur les ondes de VOA Afrique, Timothée Dolangmaï en votre compagnie avec Jules-Valentin Goué, Élisée Oumpatine et Salif Kabouré. Comment se présente la situation du point de vue des préparatifs pour cette CAN 2015? Et dans le cas de la République démocratique du Congo, le président de la Fédération de football, Constant Omari Selemani, a lancé un véritable SOS. Le staff technique des Léopards n'a ni salaire ni contrat et se contente pour le moment de primes de match pour s'en sortir. L'appel de la Fédération congolaise de football association, la FECOFA, n'a toujours pas eu de réponse apparemment à un mois et demi du démarrage de la compétition. Eddy Sango a interviewé à ce sujet le porte-parole de la FECOFA, Emmanuel Kandé.
Au jour où nous vous parlons, après plus de 6 prestations dans les différents matchs, M. Ibengue et son staff technique n'ont bénéficié que des primes des matchs. Mais qu'en a fait qui est de leur salaire, de leur traitement au terme des contrats qu'ils ont pu contracter avec l'État congolais, jusqu'à preuve du contraire, rien n'a encore été fait. Au niveau du ministère des Sports, on nous a laissé entendre que le document, le contrat était en cours d'examen au niveau des différents ministères, les budgets, les finances, mais il serait impérieux, ok, tel qu'il a dit le président Constant Omari, avant la phase finale, que le gouvernement de la République du Congo arrive quand même à honorer ses obligations, c'est-à-dire à donner les traitements, les paiements des salaires de M. Ibengue ainsi que son staff technique.
Et qu'en est-il alors de la situation des joueurs?
Ben, écoutez, la République du Congo, au travers de ce gouvernement, alloue les primes des matchs aux joueurs. Donc, le joueur reçoit des primes au terme de leurs prestations par match. Je crois que de ce point de vue, par rapport aux éliminatoires, vous n'avez pas suivi des protestations dans ce sens-là parce que il y a un nouvel état d'esprit avec une nouvelle génération qui a été installée au niveau de l'équipe nationale grâce, bien entendu, au leadership du président Omari et que, à ce jour, le gouvernement congolais avait disponibilisé, avait payé à tous les joueurs les primes par match. Bon, c'est pour des raisons, des convenances de joueurs que nous ne pouvons pas révéler les montants qu'ils ont reçus par prime. De ce point de vue, nous vous disons, monsieur, qu'il n'y a pas de problème. Mais il est question ici que l'État congolais arrive maintenant à honorer les contrats de travail de monsieur Ibengue et ainsi que le membre de staff technique. Parce que donc, il serait quand même un désagrément que monsieur Ibengue arrive à se rendre à la phase finale sans que l'État congolais n'arrive quand même à honorer son contrat.
Vous l'avez bien dit, plus que un mois et demi pour que la phase finale se tienne. Est-ce que vous ne craignez pas que le fait que le contrat n'a pas été finalisé avec les directeurs techniques ne va pas affecter la prestation de l'équipe nationale à cette phase finale?
La Fédération de football association, conduite par M. Constant Omari, fait de son mieux, ok, pour qu'on n'en arrive pas à des crises de tension, à des désagréments comme nous avons eu à les constater dans les passés où le joueur ou les membres techniques pouvaient passer dans les chaînes de télévision ou bien s'improviser à des résidences des autorités pour protester.
Voilà, c'était Emmanuel Kandé, le porte-parole de la Fédération congolaise de football association, la FECOFA, au micro d'Eddy Isango. Toujours sur ce thème, nous avons en ligne John Kandolo de Tenda, de RDC. Bonsoir, John. Allô, John?
Ok.
Voilà, nous avons quelques petits soucis avec John. Alors, Jules-Valentin Goué, donc cette situation où le staff technique des Léopards n'a toujours pas de contrat et doit se débrouiller comme il peut pour préparer cette CAN 2015. Qu'est-ce que tout cela augure pour l'équipe congolaise?
Non, mais il faut d'abord dire que c'est une situation très commune en Afrique. On a vu Akono, le seul entraîneur africain à avoir gagné les Jeux Olympiques, disons, un des rares entraîneurs à avoir gagné les Jeux Olympiques, être malmené au Cameroun parce qu'il était Camerounais. On a vu la même chose avec Kéchi au Nigeria. Donc, quand le technicien est local, généralement, les autorités se prennent à dire qu'il doit remplir sa mission, donc il n'y a pas une approche professionnelle vis-à-vis de lui. Mais je crois que c'est des choses qui peuvent se rattraper très rapidement si à un haut niveau des décisions sont prises, comme ça a été le cas récemment justement au Nigeria.
Salif Kabouré, comment ça se passe pour les étalons?
Non, ici, il faut dire que tout est paraphé depuis fort longtemps. Je crois qu'au sein des étalons, tout se passe très bien. En tout cas, si ce concerne le contrat de l'entraîneur, c'est clair. En ce qui concerne la prime de match des joueurs, c'est clair. Vous savez que vous direz tantôt, après chaque match, en fonction du résultat, la prime de match donc est payée aux joueurs au terrain avant qu'ils ne quittent le stade. L'argent est reversé directement aux joueurs immédiatement, ainsi que le staff technique, l'entraîneur et les joueurs. Donc, pas de souci en ce qui concerne en tout cas la prime de match pour les entraîneurs. Le contrat aussi est respecté donc à la lettre. Et je pense que toutes les parties respectent en tout cas leur contrat.
Élisée Oumpatine, comment s'explique cette apparente tendance à mieux traiter les entraîneurs expatriés par rapport aux locaux?
C'est un problème énorme. Retenez simplement que pour les trois participations que le Bénin a connues à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, seul un entraîneur européen a pu qualifier les Aigles. Il s'agit de Michel Dessuyer. Sinon, les deux précédentes qualifications revenaient aux deux Africains, notamment le Ghanéen Sossi, Cécile Jones, et le Béninois Wabi Gomez. Maintenant, c'est un problème énorme parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, ce sont les ministères qui ont toujours payé ces sélectionneurs. Mais quand chaque fois qu'il y a un problème, on parle d'ingérence politique. Là, on ne comprend plus rien. Maintenant, la question que moi j'aimerais poser, le contrat, souvent les contrats signés avec les sponsors, ces contrats-là servent à quoi? Est-ce que la fédération ne peut pas s'organiser autrement pour pouvoir payer ses entraîneurs souvent avec ses contrats délivrés avec les sponsors? Moi, il y a tellement de problèmes et de questions que j'aimerais poser à ces présidents de fédération aujourd'hui. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, Hervé Renard dort pratiquement à l'hôtel. Vous voyez, ils n'ont même pas de domicile fixe pour aller se reposer et ça ne fait que des fonds dilapidés pour ses entraîneurs étrangers. Maintenant, nous avons de très grands entraîneurs, notamment Jules a parlé de celui-là même qui a permis au Cameroun de remporter les Jeux Olympiques de 2000, Paul Ngono, si j'ai bonne mémoire, notamment Stéphane Kishi qui a fait un très bon travail sur le continent africain. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas maintenant permettre à ces entraîneurs africains, d'origine africaine, bien sûr, de bien s'exprimer et amener très loin cette équipe nationale? Beaucoup de questions. Et là, aujourd'hui, c'est désolable de voir que ces problèmes sont récurrents et aux fédérations maintenant de voir comment faire pour que ces problèmes ne se répètent plus.
Voilà, c'est tout pour cette édition de Sporama. Avant de nous quitter, quelques brèves sur le sport africain. Au Cameroun, Coton Sport de Garoua a remporté hier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, la Coupe nationale, en battant Panther Dundé 2-0. Coton Sport qui va réaliser cette année le doublé, puisqu'étant assuré de remporter le championnat également. Au Nigeria, c'est Enyimba qui a remporté la Coupe nationale hier en battant Dolphins par 2-1. Au Sénégal, l'AS Pikin, champion et vainqueur de la Coupe nationale, a remporté le trophée des champions en battant Guédiaouai FC, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Signalons également qu'en Côte d'Ivoire, c'est ce week-end que reprendra le championnat national de football. Et dans le reste de l'actualité sportive, un record du monde ratifié par la Fédération internationale d'athlétisme. Il s'agit de celui établi le 28 septembre dernier par le Kenyan Denis Kimeto au marathon de Berlin, avec un chrono de 2h02:57. Le précédent record était la propriété de son compatriote Wilson Kipsang, avec un temps de 2h03:23. Voilà, c'est tout pour Sporama. Merci à Jules Valentin Goué, Élisée Oumpatine, Salif Kabouré. Merci à tous nos auditeurs. Rejoignez-nous sur Facebook et rendez-vous chaque lundi dans Sporama à 19h temps universel.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.